perkeleen tontot!
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load, votre émission métal, qui chaque semaine, eh bien, vous propose un petit tour d'horizon des sorties du moment. Alors, Noël approche de plus en plus, il y a de moins en moins de sorties. J'en ai quand même une pour aujourd'hui. J'aurai également deux sorties qui datent de la semaine dernière, mais que j'ai pas eu en temps et en heure, donc que j'ai pas pu vous présenter vendredi dernier. Et puis sinon, pour le reste, eh bien, on reviendra sur quelques disques qui auraient mérité qu'on s'intéresse à eux et qui sont malheureusement passés entre les mailles du filet parce que, voilà, il y a eu un moment entre le début de reprise de saison de l'émission et maintenant où il y a quand même eu une forte période avec beaucoup de sorties. Donc cette période creuse, ça permet toujours un peu de revenir en arrière. Et ce sera la dernière émission de nouveautés, de nouveaux albums pour cette année 2019, puisque la semaine prochaine, pour la dernière avant les fêtes de fin d'année, je vous proposerai ma petite sélection de Noël, mais j'en dirai deux, trois mots tout à l'heure. Au niveau des styles que je vous présenterai aujourd'hui, on va balayer assez large, hein, puisque on aura du métal alterno, on aura du dark metal, on aura du hard rock, du heavy metal, on ira jusqu'aux frontières du pop rock, on aura également du métal un peu plus extrême avec notamment du black metal, et puis bien sûr on terminera l'émission avec la rubrique sortez cover. Aujourd'hui une petite séance de ciné, je vais vous proposer qu'on fasse on va dire le grand écart entre les années 80 et cette année 2019, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Il est temps d'ouvrir les hostilités avec la seule et unique sortie de ce 13 décembre, de ce vendredi 13 décembre. Et il se trouve que c'est un live, puisque en ce moment la période s'y prête, hein, on trouve beaucoup de lives de compilation. Donc j'avais décidé que j'en sélectionnerais un par émission. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai sélectionné le live de Stone Sour qui s'appelle Hello You Bastards Live in Reno, donc qui paraît aujourd'hui. Alors je vais quand même vous dire quelques mots sur Stone Sour. Certains d'entre vous connaissent certainement le groupe, d'autres peut-être pas. Ils sont originaires de Des Moines, c'est dans l'Iowa aux États-Unis. Le groupe est créé en 1992 par quelqu'un qui est inconnu à l'époque mais qui va pas le rester et qui ne l'est plus aujourd'hui, puisqu'il est créé par Corey Taylor, que l'on connaît surtout en tant que chanteur de Slipknot, même si, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, Stone Sour est né bien avant Slipknot, enfin bien avant, quelques années avant Slipknot, puisque donc Stone Sour ça date de 92 et puis Slipknot ça n'a été créé qu'en 95. Quant à Corey Taylor, lui, il n'a intégré Slipknot qu'en 97. D'ailleurs, faut préciser que Corey Taylor, il était pas tout seul, hein, pour créer Stone Sour. Il l'a fait avec le batteur Joel Ekman. Et à l'heure actuelle, le combo se compose, donc de Corey Taylor au chant, de Josh Rand et Christian Martucci aux guitares, de Johnny Shaw à la basse et de Roy Mayorga à la batterie. Pour ce qui est du style, on est sur du metal alternatif avec beaucoup d'influences. Des influences qui vont venir aussi bien du heavy que du hard rock, que du post-grunge, que du new metal aussi. Ça va être fait, suivant les albums, suivant les morceaux, suivant les périodes. Et pour en revenir 3 secondes à Slipknot, si c'est vrai, comme je le disais, qu'il a été fondé quelques années après, c'est quand même bel et bien grâce à lui, hein, et grâce à son succès interplanétaire que Stone Sour va enfin pouvoir émerger en 2002 avec la sortie d'un premier album éponyme qui va largement profiter de la notoriété de son frontman. Le groupe va être propulsé par des singles qui vont tourner quand même pas mal en boucle sur les radios américaines et surtout aussi vont faire une apparition sur la bande originale du film Spider-Man. Donc le disque connaît un très large succès, il sera même certifié disque d'or aux États-Unis. Mais Corey Taylor, à l'époque, il est très très occupé par Slipknot qui est à ce moment-là en plein apogée, donc il a quand même assez peu de temps à consacrer à Stone Sour, ce qui fait qu'il va falloir attendre 2006 pour voir arriver un deuxième album qui s'appelle Come Whatever May, qui va conquérir un public plus large et surtout peut-être un peu plus mainstream que son prédécesseur, avec notamment le single Through Glass, qui est une ballade très pop rock qui va se hisser en tête des charts américains. Ça va être un très très gros succès. Et donc pour ce qui est la suite de sa carrière, Stone Sour a depuis sorti Audiosecrecy en 2010. Il y a eu ensuite House of Golden Bones, un ambitieux concept album constitué de 2 disques qui sont parus respectivement en 2012 et en 2013. Et puis enfin en 2017, le combo de Des Moines a sorti Hydrograd, un album qui avait été très attendu et qui avait reçu un accueil des plus enthousiastes de la part des médias et des fans. Ça avait été une des grosses sorties de l'été 2017, hein, je me souviens. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est en mode live qu'on retrouve Stone Sour avec ce Hello You Bastards Live in Reno, qui a été enregistré le 5 octobre 2018, à Reno, hein, comme son nom l'indique. Reno, c'est une ville américaine située dans le Nevada, qui est réputée pour ses nombreux casinos, c'est la petite sœur de Las Vegas. Elle est aussi réputée pour être la ville du divorce. Alors, Hello You Bastards, c'est le premier live officiel de Stone Sour, qui est très fier d'ailleurs du résultat de son disque live, qu'il trouve authentique. Alors, il a été mixé sans aucun overdub, donc voilà, ça lui donne un son moins polissé, on va dire. Alors certes, comme l'a précisé le guitariste Josh Rand, le son n'est pas parfait, mais selon lui, Stone Sour ne l'est pas non plus, donc tout va bien. En ce qui concerne la setlist du live, elle se compose de 16 titres, dont bien sûr les tubes du combo. Quant au format de l'album, eh bien c'est à vous de choisir celui qui vous convient, puisque Hello You Bastards, il est disponible en streaming, en téléchargement, en CD, et pour les fans les plus fervent en vinyle collector limité à 25 000 exemplaires, des exemplaires qui comprennent plein de petits gifts comme par exemple un médiator, un poster, une setlist dédicacée, donc de quoi se faire plaisir pour Noël quand on est fan de Stone Sour. Allez, on écoute un extrait de Hello You Bastards Live in Reno avec le titre Absolute Zero, qui est extrait de House of Golden Bone Part 1.
I'm not afraid. I'm giving it to breathe this sense again. You're looking at it is and fake it.
Stone Sour sur Bike FM dans l'émission Check Me Load avec le titre Absolute Zero en live, et pour cause, c'est un extrait de l'album live Hello You Bastards Live in Reno qui paraît aujourd'hui, donc le premier live officiel de Stone Sour. Stone Sour, donc le projet parallèle de Corey Taylor qui est le chanteur de Slipknot. Voilà, vous savez tout et c'est une bonne idée à mettre au pied du sapin pour Noël. On va maintenant écouter deux groupes français à la suite qui n'ont rien à voir au niveau du style, mais qui ont pour similarité d'avoir sorti tous les deux vendredis dernier un nouvel album. Alors, on va commencer par les plus anciens avec The Old Dead Tree, qui a donc sorti The End le 6 décembre. Alors, je vais vous raconter un peu qui sont The Old Dead Tree, parce que c'est un groupe qui aurait pu aller très très haut, mais bon, qui a eu quand même pas mal de galères et qui a eu surtout une période d'arrêt de quelques années. Donc, c'est un groupe parisien qui est né en 97. Il a été créé par le chanteur-guitariste Manuel Munoz, qui depuis s'est illustré dans pas mal d'autres projets. Il y avait également le guitariste Nicolas Chevrolier, le bassiste Vincent Danier et le batteur Frédéric Guimau, qui est décédé en 99. Et à ce jour, eh bien, de ce line-up, il ne reste que Manuel Munoz et Nicolas Chevrolier. La section rythmique, actuellement, elle se compose de Gilles Moinet à la basse et Raphaël Antôme à la batterie. C'est du dark metal progressif, The Old Dead Tree. C'est comme ça d'ailleurs que se définit le combo, qui revendique comme influence, eh bien, par exemple, Opeth, Paradise Lost, My Dying Bride, Catatonia, ce qui est tout à fait logique, mais aussi Metallica, Slayer ou encore Pink Floyd. C'est un groupe qui va se distinguer au sein de la scène métal dès la sortie de son premier EP qui s'appelle The Blossom. Là, on était en 99, donc c'était il y a 20 ans. L'avenir, à ce moment-là, s'annonce radieux pour le jeune groupe, qui voit vite son ciel s'obscurcir par une tragédie. Effectivement, bah, juste à ce moment-là, le batteur Frédéric Guimau va mettre fin à ses jours, et ça va être une épreuve vraiment terrible pour The Old Dead Tree, qui va malgré tout continuer sa carrière et signer avec le label Season of Mist, sur lequel sort son premier album The Nameless Disease en 2003, qui est bien entendu dédié à la mémoire de Frédéric Guimau, et dont les morceaux traitent eh bien, de la souffrance et de la peine ressentie par ses camarades, mais aussi de leur colère et de leur regret de pas avoir vu la détresse de leur ami. The Nameless Disease, c'est un album poignant qui va recevoir les éloges des médias, qui va permettre au groupe de tourner à travers toute l'Europe avec ses idoles, hein, puisqu'ils vont tourner avec Paradise Lost, Opeth, Catatonia. Et donc, fort de cette expérience, The Old Dead Tree reprend les chemins des studios et va enregistrer son deuxième album sous la direction du producteur allemand Andy Klassen, qui est connu pour son travail avec Chris Hune, avec Legend of the Damned, et The Perpetual Motion paraît en 2005. C'est de nouveau un disque plébiscité par les médias, mais aussi par le public, tout comme le sera d'ailleurs The Waterfields, le troisième album du combo qui paraît en 2007 et qui lui permet de se produire dans les festivals les plus prestigieux, dont bien sûr le Hellfest. Mais en 2007, le poids du groupe devient un petit peu lourd à porter pour ses membres, et du coup, Manuel Munoz va annoncer la fin de The Old Dead Tree en 2008. Alors, il y aura bien une petite reformation temporaire en 2013, le temps de quelques concerts, mais ça va s'arrêter là. La reformation officielle, elle arrivera en 2017. Une reformation concrétisée donc par la sortie de ce nouvel EP, The End, qui est paru vendredi dernier, et qui malheureusement constituera normalement l'ultime chapitre des Parisiens qui ont décidé d'arrêter là. Cette fois-ci, visiblement, ça a l'air d'être une décision sur laquelle ils ne reviendront pas. Et avant de partir, ils nous offrent un 5 titres, dont celui qui clôt l'album est un vieux titre qui a été retravaillé puisqu'il date de l'époque du premier EP, donc de 99. Alors, à l'image de la trilogie d'albums qui a fait sa réputation, The Old Dead Tree nous propose des compositions très riches sur The End, très variées, qui sont finement composées, qui sont extrêmement bien produites. On se replonge avec beaucoup de plaisir dans l'univers de ce combo quand même assez hors norme, qui nous offre quand même des adieux grandioses. Et puis, petit bonus, The End est accompagné d'un documentaire qui retrace la carrière du groupe. Voici tout de suite un extrait de cet ultime EP The End avec le titre Sorry, c'est le titre qui ouvre le disque. Voici The Old Dead Tree. All Dead Tree à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Sorry, c'est un extrait de The End. The End, c'est un EP qui est sorti la semaine dernière et normalement il s'agira de l'ultime EP, de l'ultime production de The All Dead Tree, donc raison de plus pour se le procurer immédiatement. Et bien si vous aimez ce dark metal progressif qui est très bien écrit, qui est très bien interprété. C'est vrai que je présente pas toujours les EP parce que des fois il n'y a pas beaucoup à dire. Des fois c'est juste une façon de réunir des morceaux qui vont paraître dans un album. Ou... Tandis que là il a vraiment une utilité. Enfin, oui, il a vraiment une utilité cet aspect, cet EP. Et, il méritait vraiment d'être mis à l'honneur dans cette émission Check Me Load. On reste en France et là on va pareil s'intéresser à un groupe qui a sorti également le 6 décembre son nouvel album. Alors, c'est leur deuxième album à eux, ça s'appelle French Rock Revolution, le nom du groupe c'est 58 Shots. Et alors on le savait déjà, AC/DC a des petits frères un petit peu partout. Alors ceux qu'on considère vraiment comme les petits frères d'AC/DC, c'est les Australiens de Airborne. Et bien les Australiens ne sont plus les seuls à avoir leurs petits frères puisque la France a désormais les siens. Vous les avez d'ailleurs peut-être vus en concert à la taverne il y a tout pile un an, les 58 Shots qui nous viennent de Besançon et qui existent depuis maintenant 2011. Alors 58 Shots, c'est un quatuor qui est composé de Arthur au chant à la guitare, de William à la guitare, de Tony à la batterie et de Théo à la basse qui est le dernier arrivé au sein du groupe. Eux, leur style, c'est du classique rock, très hard rock. Les principales influences du groupe, elles sont pas difficiles à deviner. Il y a AC/DC, bien sûr, on vient de l'évoquer. Il y a aussi Led Zepp également. Il y a Deep Purple. Enfin, en somme, les darons, quoi. Et puis, le groupe apprécie également des formations actuelles, bah, justement, parmi lesquelles Airborne, mais aussi des groupes des années 90, comme par exemple Rage Against the Machine. Alors, c'est pas, ça se résume pas qu'à ça, hein, les influences de 58 Shots. Elles sont vraiment très très variées, très très larges. Leur musique, c'est vrai qu'elle reprend les codes des années 70 avec une voix perchée dans les aigus et des solos de guitare épiques, mais le tout est revu avec une vision moderne et actuelle de la chose. C'est un groupe qui avait sorti un premier album Don't Mess With Lion en 2015 et puis donc ce nouvel album French Rock Revolution qui est le fruit de 3 années de travail hein, pour le groupe. Alors pour ce deuxième premier album, comme ils aiment le surnommer, nos belles fortins sont allés chercher au plus profond d'eux-mêmes l'inspiration nécessaire pour faire un album de classic rock qui soit pas une pâle copie de ce qui existe déjà. Et c'est vrai qu'en ce moment c'est assez dans l'air du temps hein, de faire du classic rock, donc voilà, il faut arriver à faire quelque chose d'un peu nouveau et dans un style autant écumé et copié, ben c'était pas gagné d'avance. Du coup, pour la première fois, le groupe a fait appel au service d'un directeur artistique qui s'appelle David Husser et il est venu apporter lui son oreille extérieure, son oreille professionnelle pour parfaire chaque seconde de musique et exploiter les compositions du groupe à leur paroxysme. Alors tout a été pensé de manière à garder l'intérêt de l'auditeur d'un bout à l'autre du disque, sans rien laisser au hasard. C'est pourquoi, après de longues heures d'écoute, ils ont décidé d'ajouter un Orgamon, un Wurlitzer, un Mellotron, un Thunder Road, et puis divers percussions. Et puis, ils ont aussi fait des petits réarrangements de guitare, de basse, de chant, de batterie. Tout ça, ça fait que le groupe affirme haut et fort que cet album est bel et bien une révolution dans le monde du rock, du classic rock hexagonal. Mais le plus grand défi restait encore à relever, faire un album quand même qui sonne 2019. Et pour ça, toutes les techniques de production moderne ont été utilisées, du reamping, de l'enregistrement de la batterie avec 14 micros dont 3 ambiances, du doublage des voix, de l'utilisation d'effets modernes tels que le vocodeur. 58 Shots ne s'est donné aucune limite. Le mélange de ces techniques combinées aux capacités du groupe ont permis cette espèce d'alchimie qui fonctionne parfaitement avec un petit côté anachronique, mais c'est pas du tout, enfin ça fonctionne quoi, c'est réussi. Et avec French Rock Revolution, 58 Shots prouve que le classic rock ne cesse d'évoluer, sait traverser les âges finalement sans prendre une ride. C'est une belle cure de jeunesse pour un style que certains croient à tort mort et enterré. Et à noter que le groupe s'est également, en plus de la partie studio, s'est également forgé une sacrée réputation scénique et je pense que ça promet pour les concerts à venir. On aura peut-être d'ailleurs l'occasion de les revoir du côté de Nevers. On va écouter un extrait de French Rock Revolution avec le morceau titre, donc French Rock Revolution. Tout de suite, voici 58 Shots qu'on avait d'ailleurs eu en interview l'année dernière sur ces ondes. C'est Apolline qui avait réalisé l'interview.
ready.
Rock Revolution de 58 Shots, extrait de l'album du même nom. Alors, un titre qui sonne AC/DC et qui d'ailleurs est revendiqué comme ça par le groupe, hein, qui n'a pas peur de l'affirmer, qu'effectivement ce morceau il sonne comme AC/DC, mais ils n'en ont rien à faire et ils ont bien raison. Le principal c'est de s'éclater, de faire de la bonne musique, et il est vraiment très réussi ce deuxième album de 58 Shots. Je vous rappelle une dernière fois le nom du disque. French Rock Revolution, c'est disponible depuis la semaine dernière et c'est à découvrir. Et surtout, s'il repasse vers chez nous en concert, c'est à découvrir absolument en live. On va se calmer un petit peu maintenant, on va se poser 5 minutes et on va parler de Marillion qui a sorti le 29 novembre un album un petit peu exceptionnel, un album qui s'appelle With Friends from the Orchestra. Donc vous l'avez compris, il y a une histoire d'orchestre derrière tout ça. Avant de vous en dire plus, quelques mots sur Marillion, au cas où certains d'entre vous ne connaîtraient pas ce groupe. J'en doute hein, parce que Marillion c'est quand même un combo qui a une grosse carrière derrière lui. Même sans le savoir, vous connaissez au moins une chanson de Marillion, c'est obligé. Donc c'est un groupe qui est originaire de Aylesbury, c'est tout près de Londres, qui a été fondé en 1979, il y a 40 ans. Alors le seul membre fondateur encore présent aujourd'hui, c'est le guitariste Steve Rothery. En ce qui concerne le reste du groupe, eh bien son line-up, qui est quand même très stable au moins depuis les années 80, la fin des années 80, se compose de Pete Trevavas à la basse, c'est dur à dire ça, de Mark Kelly au clavier, de Ian Mosley à la batterie, sans oublier bien sûr Steve Hogarth au chant, qui a eu la lourde tâche de succéder au charismatique Fish. Alors c'est quoi Marillion ? Eh bien c'est du rock avant tout, mais du rock aux influences ô combien multiples, qui vont du rock progressif, voire même néo-progressif, qui constitue la base quand même de leur musique, jusqu'à la pop, en passant par le hard rock, par la new wave. C'est très très varié, très coloré la musique de Marillion. Et en 40 ans de carrière, le groupe a sorti 18 albums studio et a connu ses plus gros succès commerciaux quand même dans les années 80. Son album le plus célèbre et le plus emblématique, c'est certainement Misplaced Childhood, qui est paru en 85 et qui contient le morceau K-Late, qui a été un tube à l'époque. Pour la suite de leur carrière, eh bien, il va y avoir une grosse cassure lorsque Fish va quitter Marillion en 88. Alors à ce moment-là, les fans sont vraiment très sceptiques quant à l'avenir du groupe et l'arrivée de Steve Hogarth, elle est loin de faire l'unanimité. Pourtant, plus de 30 ans après, eh bien, le groupe est toujours bien vivant. Il a même sorti quelques très belles pièces hein, durant les 3 dernières décennies. Et Marillion, eh bien, aujourd'hui, est fort d'une réputation sans faille, acquise grâce à son rock intelligent, profond, parfois un peu sombre, qui lui vaut encore à l'heure actuelle bien légion de fans à travers le monde qui se précipitent à chacun de ses concerts. Véritable symbole d'innovation, de réinvention, Marillion a décidé de nous étonner encore une fois en revisitant avec ce nouveau disque 9 de ses classiques, mais en étant accompagné par un orchestre qui est constitué pour l'occasion d'un quatuor à cordes belge qui s'appelle In Praise of Folly, d'une flûtiste qui s'appelle Emma Alnan et d'un corniste ou un joueur de cordes harmonie si vous préférez qui s'appelle Sam Morris. Donc le disque qui dure quand même 80 minutes a été enregistré entre le Racket Club Studio qui est le studio de Marillion et les Real World Studios de Peter Gabriel et le résultat est tout simplement magique. Le mélange entre les instruments électriques et l'orchestre est équilibré à la perfection, la prestation de Steve Hogarth est irréprochable. Avec With Friends from the Orchestra, eh bien Marillion nous fait planer, nous fait rêver. Les 9 pièces musicales qui sont extraites pour une grande partie d'albums parus dans les années 90, mais pas que, prennent dans ce magnifique disque une toute nouvelle dimension. Le projet était extrêmement ambitieux, mais Marillion a réussi son pari haut la main. On s'offre tout de suite donc une parenthèse de calme et de sérénité dans cette émission avec le titre Fantastic Place, dont la version se trouve sur l'album Marbles, paru en 2004, mais revisité ici avec un orchestre. Voici Marillion.
It's always a struggle to let somebody go. It's a natural desire to own your lover, I know. But you can screw a man down until it takes to drinking. He'll give you all of his money, you still won't know what he's thinking.
Take me to the fantastic place. Keep the rest of my life away. Take me to the fantastic place. Keep the rest of my life away. Take me to the island. I'll watch the rain over your shoulder. The street lights in the water. The moment outside of real
Fantastic Place de Marillion, extrait de With Friends from the Orchestra, le nouveau disque du groupe anglais, disque enregistré donc avec un orchestre, c'est très très beau, très réussi. Alors c'est très calme hein, pour la programmation de Jake Milhaud, je vous l'accorde, mais voilà, ça valait vraiment le coup de vous présenter cet album, parce que voilà, quand on a des belles choses, eh bien il ne faut pas s'en priver. Jake Milhaud qui continue et qui va se réagacer un petit peu maintenant avec... un groupe suédois qui avait déjà sorti un premier album et qui vient de sortir un deuxième mi-novembre. Ce groupe, c'est Syrah. L'album s'appelle No Halos in Hell. Donc Syrah, c'est un groupe de Göteborg qui a été fondé assez récemment, en 2017. Et c'est ce qu'on appelle un super groupe, puisqu'il a été créé par l'ex-chanteur d'Amaranth Jake E et l'ex-guitariste d'Inflame Jesper Stromblad. Donc le duo a ensuite été rejoint par l'ex-bassiste d'Inflames Peter Ewers, qui a depuis quitté le projet. Il y a eu également, qui est toujours là d'ailleurs, le guitariste finlandais Öge Valovirta, qui est un ex Shining notamment, mais pas que. Et puis le batteur allemand Alex Landerburg, pareil, qui a un très beau CV et qui, soit dit en passant, vient d'intégrer le line-up du groupe américain Camelot. Alors avec Syrah, on est sur du heavy metal mélodique très moderne. Des fois, on n'est pas loin du new metal, hein, j'ai envie de dire. Côté discographie, peu de temps après s'être formé en 2017, le groupe avait sorti son premier album qui s'appelait Letters to Myself, qui avait reçu un accueil, ma foi, plutôt positif. Boosté par ses débuts encourageants, le combo a choisi de rester sur cet élan et a rapidement fait son retour dans les bacs, donc mi-novembre, avec ce No Halos in Hell, un deuxième album, toujours très mélodique, mais peut-être plus heavy que son prédécesseur. C'est d'ailleurs en tenant compte des faiblesses de son premier opus, mais aussi de ce qui constituait sa force, que Syrah a composé cette nouvelle production qui se veut vraiment taillée pour le live, avec des refrains assez imparables, un peu accrocheurs. Le son du groupe sur cet album, c'est encore plus vrai, se situe vraiment à mi-chemin entre le son européen et le son américain. Et d'ailleurs, Syrah a pas peur de tenter son heavy de parties électro assez conséquentes, qui pourront rebuter quand même certains auditeurs allergiques à ces sonorités synthétiques, mais qui font partie intégrante de l'identité du combo. Alors en ce qui me concerne, pour être tout à fait honnête, je trouve que ce deuxième opus de Syrah, sans être un mauvais album, souffre quand même encore de quelques faiblesses. Par exemple, je trouve que bon, alors, les morceaux, oui, effectivement, ils sont efficaces, mais ils sont peut-être un peu faciles, et l'ensemble est quand même un petit peu trop aseptisé à mon goût. Je pense que Syrah se cherche encore un petit peu, et son nouvel album est pas tout à fait abouti. Alors, il y a quand même quelques bons titres, hein, mais bon, on reste un petit peu sur notre fin. Ça fait rien, on va pas se priver d'en écouter quand même un extrait pour que vous puissiez vous faire votre opinion. On va écouter un extrait qui s'appelle Battle From Within, donc extrait de No Halos in Hell, un morceau très fort qui est dédié au frère de Jake Hay qui est décédé il y a quelques années, qui s'est suicidé, et c'est vraiment une chanson qui pourra parler à tous ceux qui ont vécu ce terrible drame. Tout de suite, Battle From Within de Syrah.
Fuck.
C'était Syrah à l'instant sur Bac FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Battle From Within, extrait du nouvel album No Halos in Hell, qui est paru le 15 novembre. Syrah est, je le rappelle, un all-star band, puisqu'on y retrouve l'ex-chanteur d'Amarante Jake Hay, l'ex-guitariste d'In Flames Jesper Stromblad, et puis également le finlandais Huge Valovirta et le batteur allemand Alex Landeburg. Voilà pour ce groupe Syrah. Donc si vous aimez le métal moderne, si vous craignez pas les sons synthétiques, je pense que ça peut vous plaire. On va écouter un peu de black metal, tiens, ça va nous changer un petit peu et on va s'intéresser à un groupe que j'aime beaucoup. Ça faisait quand même un bon moment qu'ils avaient rien sorti de nouveau, et là ils sont revenus le 15 décembre avec un nouvel album. Ce groupe c'est Abigail Williams, c'est le nouvel album, s'appelle Walk Beyond the Dark. Alors Abigail Williams c'est un groupe américain qui est originaire de Phoenix dans l'Arizona, qui a été formé en 2005, qui est désormais basé à Olympia. Alors là on est plus du tout dans l'Arizona, on est dans l'état du Washington. Et Abigail Williams, dont le nom fait référence aux fameuses sorcières de Salem, a été créée par le guitariste Ken Sorcerone, qui est à ce jour accompagné du guitariste Brian O'Sullivan et du batteur Bryce Butler. C'est un line-up qui est plutôt stable depuis quelques années, ce qui n'a pas toujours été le cas, loin de là, hein, puisqu'ils ont eu des premières années assez compliquées chez Abigail Williams. En tout cas, leur style, c'est du black metal symphonique, même si à ses débuts, le groupe évoluait dans un registre metalcore. Donc là aussi, on a connu quand même une grosse évolution. Après avoir tourné intensément aux États-Unis et en Angleterre, Abigail Williams avait sorti son premier EP en 2006 qui s'appelait Legend, qui proposait un mix justement entre metalcore et black metal symphonique. Et c'est un EP qui va permettre au groupe de tourner avec Dark Funeral et Enslaved. Alors ça va être un départ extrêmement prometteur, et pourtant, eh bien, le groupe va imploser début 2007. Un split que Sorcerone va qualifier plus tard de pause planifiée. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, voilà, c'est comme ça que lui le justifie. D'ailleurs, le groupe reprend finalement du service en 2008 et va sortir cette fois-ci son premier album qui s'appelle In the Shadow of Thousand Suns, dont la production est signée James Murphy. Alors, James Murphy, c'est le guitariste d'Obituary, de Testament et de Cancer. Dans ce premier album, l'influence de la scène black metal européenne, particulièrement le black symphonique de Cradle of Filth, Dimmu Borgir et Old Mind Child, est évidente. Les Américains empruntent aux uns les orchestrations et les structures des chansons et aux autres les passages un petit peu trashisants. Le metalcore des débuts à ce moment-là, il est bien loin derrière eux. Et après un deuxième album dans la même veine qui s'appelle In the Absence of Flight en 2010, eh bien le combo va prendre un nouveau virage musical avec Becoming en 2012, qui propose cette fois un croisement entre black metal et post-rock et qui va propulser Abigail Williams là où on les attendait pas. C'est d'ailleurs dans ce prolongement que va s'inscrire The Accuser, qui paraît en 2015 et qui fait à l'époque forte impression. Et comme Abigail Williams semble plutôt du genre à aimer prendre son temps et peut-être pour privilégier la qualité à la quantité, eh bien il aura fallu attendre 4 longues années pour voir arriver un successeur à The Accuser. C'est désormais chose faite depuis mi-novembre avec Walk Beyond the Dark, le somptueux 5e album des Américains, qui nous offre encore une fois un black symphonique et atmosphérique aussi puissant que racé, accompagné d'une production massive et puis servi par une interprétation sans faille. Ken Sorcerone et ses comparses sont vraiment au top. Avec Walk Beyond the Dark, terminer les hésitations des débuts, on a affaire ici à du travail mûrement réfléchi où chaque élément est parfaitement pesé, chaque instrument est parfaitement à sa place, et le résultat, eh bien, c'est une déferlante inébranlable de violence sourde et sombre. Walk Beyond the Dark, c'est un album intense, torturé et tortueux, qui constitue un point d'orgue dans la discographie d'Abigail Williams. On en écoute tout de suite un extrait avec le titre Ever So Bold. Yeah. C'était Abigail Williams à l'instant avec le titre Ever So Bold, extrait du nouvel album Walk Beyond the Dark, paru donc le 15 novembre. Abigail Williams, groupe de black metal symphonique américain. Black metal symphonique avec une touche de post-metal, post-rock. C'est vraiment très très bien. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter une oreille à leur discographie. Eh bien, ça y est, nous avons fait le tour de ces quelques nouveautés sélectionnées pour l'émission d'aujourd'hui. Et bien, il est temps de passer à la rubrique Sortez Cover. Aujourd'hui, ce sera séquence cinéma d'horreur avec une petite visite à l'un des boogeymen les plus célèbres d'Hollywood. C'est dans les rêves, ou devrais-je dire les cauchemars, qu'il s'attaque à ses jeunes victimes. Inutile d'en dire plus, vous aurez certainement reconnu Freddy Krueger, héros défiguré à la griffe acérée qui sévit dans la fameuse saga Freddy. Alors Freddy, c'est une saga débutée en 84 avec le film de Wes Craven intitulé Les Griffes de la Nuit, dans lequel jouait d'ailleurs un certain Johnny Depp qui dans le film finit très mal. Et à ce jour, eh bien, la lucrative franchise qu'est Freddy compte 9 films, alors parmi lesquels un certain nombre sont quand même assez dispensables, je vous l'accorde. Et nous, c'est le numéro 3 auquel on va s'intéresser. Un numéro 3 qui s'intitule Les Griffes du Cauchemar, qui est sorti en salle en 1987. Alors celui-là, il fait partie des bons épisodes de la saga, et le thème principal de sa bande originale, elle est signée du groupe de heavy metal américain Dokken. Il s'agit de la chanson Dream Warrior, qu'on va écouter dans quelques minutes, dans une version revisitée par le groupe de heavy metal polonais Crystal Viper. Alors cette reprise de Dream Warrior, on la trouve dans le nouvel album qui s'appelle Tolls of Fire, hein, ce nouvel album de Crystal Viper que j'avais présenté il y a 15 jours. D'ailleurs, j'ai écourté un peu le nom de l'album parce que il me semble qu'il s'intitule Tolls of Fire and Ice, si je le donne correctement et en entier. Alors quand je vous avais présenté le disque, j'avais mentionné cette reprise, j'avais promis de la diffuser un de ces jours. Eh bien, ce un de ces jours, c'est aujourd'hui. Alors quelques mots sur la chanson Dream Warrior. Donc j'ai déjà dit, elle est interprétée par Dokken. Elle est parue en 45 tours le 10 février 1987, lors de la sortie de Freddy 3 aux États-Unis. On va la retrouver ensuite quelques mois plus tard sur Back for the Attack, le quatrième album de Dokken, qui paraît lui le 27 novembre 87. Dream Warrior, elle est composée spécialement pour le film par le guitariste George Lynch et le bassiste Jeff Pilson. Elle sortira accompagnée d'un clip vidéo dans lequel on voit des séquences du film avec quelques scènes originales du personnage joué par Patricia Arquette. Dans le film, elle se nomme Kristen Parker. Et bah dans les images qu'on peut voir, Patricia Arquette est menacée par Freddy Krueger avant d'être secourue par Dokken, qui chasse Freddy avec la puissance de sa musique. Le clip se termine ensuite par une petite touche d'humour puisqu'on voit Freddy qui se réveille dans son lit et qui s'exclame « What a nightmare! Who were those guys ?» qu'on peut traduire par « Quel cauchemar, qui étaient ces gars ?» alors que normalement, c'est lui qui fait peur aux gens dans les cauchemars et pas l'inverse. À noter que Dream Warrior, c'est pas la seule chanson de Dokken qui est présente sur la bande originale de Freddy 3, puisqu'on entend également dans le film le morceau « Into the Fire ». Alors je crois que c'est à la fin du film. Ça, c'est un extrait qui est normal. Enfin, c'est un morceau présent à l'origine sur l'album « Tooth and Nail », toujours de Dokken, paru en 84. Alors si en France, Dream Warrior est surtout connu des amateurs de cinéma d'épouvante aux États-Unis, elle a quand même eu son petit succès, elle s'était même classée dans les charts. Et pour finir sur une petite note de pop culture qui va particulièrement parler aux adolescents, Dream Warrior, elle a été reprise en 2018 par le casting de la série à succès Riverdale. C'était à l'occasion du quatrième épisode de la saison 3, dans lequel, un petit peu dans le style du film Breakfast Club, on découvrait l'adolescence des parents des héros de la série, c'est-à-dire Archie, Jughead, Betty, Veronica et les autres. Allez, il est temps de découvrir Dream Warrior de Dokken, revu et corrigé par Crystal Viper dans son dernier album. Alors, une version donc avec un chant féminin, c'est le chant de Martha Gabriel, alias Les The Witch. C'est une revisite qui reste bien dans l'esprit de Dokken, mais avec un son très moderne, donc c'est plutôt intéressant. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de cette année 2019, et tradition oblige, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, ce sera un Check Me Load spécial Noël, avec une sélection que je suis en train de finaliser, et je peux vous dire d'avance que ça va déménager au pays du Père Noël. Les lutins vont pouvoir pogoter sévère. Allez, à vendredi prochain, salut à tous, tout de suite Crystal Viper avec le titre Dream Warrior.